Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho pour un nouveau sujet en compagnie du docteur Jean Dorido. Jean, bonjour.
Bonjour Émilie.
Alors vous exercez en profession libérale à Paris, dans un cabinet libéral à Paris. Vous êtes également créateur de l'application Zenfi, chroniqueur en radio, télé. Et également vous êtes l'auteur du livre Le bonheur est une science exacte, c'est ça, aux éditions Larousse.
Exactement.
Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous.
Merci
aujourd'hui.
Pour votre invitation.
Nous allons parler aujourd'hui de la grande démission ou bien cette incapacité à travailler. Concrètement, cela se traduit de différentes façons. C'est un peu une fatigue extrême, un épuisement à l'idée d'aller travailler, même d'ouvrir peut-être sa boîte mail quand on est en tous les cas dans la vie active. Et puis pour les personnes en recherche d'emploi, c'est tout simplement le fait de ne plus postuler à des offres d'emploi. C'est assez inédit en France, je crois. Et d'ailleurs, les chefs d'entreprise aujourd'hui se préoccupent beaucoup parce que d'une part, ils n'arrivent plus à recruter, ils n'arrivent même plus à garder leurs collaborateurs. Un phénomène donc inédit, je le disais. D'après vous, d'où vient ce mouvement de grande démission?
Alors en fait, c'est comme toujours dans ce genre de phénomène, il y a des explications qui sont complémentaires les unes des autres. Et puis d'abord, c'est important de bien distinguer et ce que vous décrivez, Émilie, ça fait vraiment penser à de l'épuisement professionnel. La personne qui ne peut même plus ouvrir sa boîte mail, c'est au-dessus de ses forces. Là, on est vraiment dans ce qu'on appelle l'épuisement professionnel, le burn-out en anglais. Et il y a de nombreux cas, hélas, en France. Et puis, par ailleurs, indépendamment de l'épuisement professionnel, il y a effectivement, vous l'avez dit, cette espèce de mouvement, de tendance générale à finalement un désintérêt pour le travail. Il y a des instituts de sondage qui mesurent régulièrement l'importance que les Françaises et les Français accordent à leur travail. Et il n'y a encore pas si longtemps que ça, il y avait une majorité de Français pour qui le travail, ça avait une place centrale dans la vie. Et ces personnes-là sont de moins en moins nombreuses. Et c'est vrai, on parle de grandes démissions. Le phénomène a commencé aux États-Unis, une espèce de désintérêt. De désengagement total, exactement. Et alors, manifestement, il y a quand même quelque chose avec la crise, avec cette pandémie de Covid que le monde entier a traversé. Et ça, les psychologues l'observent depuis toujours. Dès qu'il y a une crise importante, ça a été vu au moment de la crise financière de 2008. Ça avait été vu aussi au moment, aux USA, des attentats du 11 novembre 2001. En fait, dès qu'il y a un événement comme ça, une crise importante, majeure, il y a une espèce d'effet mécanique de, finalement, un désintérêt pour le travail, peut-être parce que, précisément, eh bien, tout le monde réfléchit davantage, se questionne finalement davantage sur le sens de son existence.
D'accord. Donc, des questionnements, remise en question. Comment cette incapacité à travailler se traduit-elle, en fait, d'où, comment se traduit peut-être, on peut parler de souffrance, du coup, parce que si on arrive...
Ben alors, encore une fois, c'est vraiment important de distinguer le sujet de la souffrance au travail, le burn-out, l'épuisement professionnel. Ça, c'est un vrai, vrai sujet et ça fait de gros dégâts en termes de santé mentale. Un burn-out, c'est en fin de compte comme une dépression réactionnelle. La personne, elle devient dépressive et c'est, ben, voilà, elle ne peut plus travailler. Et ça, c'est différent de ce mouvement de la grande démission, puisque, si vous voulez, un cas un peu typique, un peu symptomatique, c'est le couple de jeunes citadins qui travaillaient beaucoup, qui voyaient ses enfants, certes, et qui là, tout d'un coup, va se dire « Non, mais attends, finalement, chérie, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? On court comme des dingues toute la journée. » Il y a eu quand même, avec cette pandémie, l'explosion, pourrait-on dire, du télétravail. Donc il y a énormément de personnes qui avaient l'obligation d'aller travailler physiquement dans leur entreprise, parce que c'est un fait qu'il y avait beaucoup d'entreprises, avant la pandémie, qui n'étaient pas très favorables au télétravail, avec cette espèce d'idée, vous savez, que ben, il faut quand même que la personne soit vue par son manager, quoi, sinon voilà, elle ne va pas travailler très sérieusement. Et puis là, par la force des choses, toutes les entreprises ont été obligées, contraintes, de se mettre au télétravail. Donc c'est rentré dans les mœurs. Et vous avez aujourd'hui des couples de jeunes actifs qui travaillaient beaucoup, qui couraient après le temps, qui se disaient tout compte fait, peut-être qu'on pourrait travailler beaucoup moins, déménager, vivre dans un espace plus grand, plus agréable, plus proche de la nature, plus éco-responsable, et ça peut passer, c'est un fait, par des périodes d'inactivité.
D'accord. Une certaine prise de conscience, peut-être donc d'un état passager ou pas, on ne sait pas.
Alors, est-ce que c'est une prise de conscience? C'est difficile, on ne peut que formuler des hypothèses, parce qu'il faudrait aller, c'est ce que font les psychologues qui font de la recherche universitaire, c'est ce qu'on fait aussi différemment à ces fameux instituts de sondage d'opinion. C'est vrai que les tendances qui se dégagent, il y a quand même cette urgence climatique quand même qui fait du chemin dans les esprits. Par ailleurs, c'est une réalité, la France, c'est devenu un désert. Plus de 80% de la population française se concentre dans des grandes villes, des espèces de grandes cités comme ça, avec toute la banlieue autour, et dans les campagnes, il n'y a plus personne. Et c'est un paradoxe, parce qu'il est important d'investir la campagne, d'en prendre soin, de se rapprocher de la nature pour être plus conscient sur l'impact écologique de chacun. Donc oui, peut-être, on peut imaginer, formuler l'hypothèse qu'il y a une prise de conscience à l'origine de ce nouveau rapport au travail, pourrait-on dire. En même temps, pardon d'être un peu long, c'est pas non plus nouveau. Déjà, les étudiants de mai 68 avaient entre autres slogan « Il ne faut pas perdre sa vie à la gagner ». Le travail, il est quand même, c'est quand même pas nouveau non plus.
D'accord, la quête de sens dans le travail, qu'est-ce que c'est? Comment la définir quand on ne se retrouve plus dans son job, qu'on a
alors,
en quête de ce sens?
La psychologie nous apprend notamment à travers Abraham Maslow, qui est un psychologue humaniste qui a travaillé, il est très connu, la fameuse pyramide des besoins. Et donc, c'est un fait que d'abord, nous sommes des mammifères sociaux, ça veut dire qu'on a besoin d'être avec du monde, d'être avec des gens. Et le sens du travail, ça passe justement dans la pyramide de Maslow, ça passe par avoir une place dans la collectivité humaine que nous formons.
Appartenir à un groupe.
Appartenir à un groupe et puis se sentir utile. Via la machine à café, ça vous avez raison, donc c'est l'aspect mammifère social. Et puis, dans cette société, donc les collègues, on est content de les retrouver, de parler avec eux, d'avoir le sentiment d'être utile. Voilà, que la personne, eh bien, elle a le sentiment que lui dit, écoute, on a besoin de toi. Voilà, c'est important que tu sois là. Ça, voilà, c'est très, très nourrissant, très gratifiant. Et c'est ça, dans le fond, le sens du travail. Et c'est le problème. Il y a eu un livre qui a fait date il y a quelques années, un livre américain qui s'appelait « Bullshit Job ». C'est vraiment les jobs qui ne servent à rien. Bon. Et c'est un fait qu'il y a des personnes qui ont l'impression, à tort ou à raison, que leur job ne sert à rien dans le fond. Elles écrivent des rapports que personne ne lit, elles font des recherches finalement dont elles ont le sentiment que personne ne les utilise, et typiquement ces personnes, elles traversent une quête de sens, et typiquement, aujourd'hui vous avez par exemple une boulangerie sur cinq, dans les créations de boulangerie en France, on avait une sur cinq qui est créée par un cadre ou un cadre supérieur, parce que clairement, ces personnes, elles sont heureuses, pour schématiser, de quitter la vie de bureau pour faire du pain.
Elles mettent les mains
à la pâte, c'est le cas de le dire, parce qu'elles sont heureuses, elles voient, je dirais, le process de A à Z. Voilà, le type, il rentre la farine, il prend son pétrin, il fait cuire le pain et il a le sourire du client, de la cliente, il lui vend du bon pain frais. Et bien, ça, c'est un fait que c'est la psychologie positive qui observe ça. C'est très gratifiant de voir, on a besoin de voir le résultat. Et c'est un fait, la France s'est beaucoup tertiarisée ces dernières années. Les politiques le disent beaucoup, on n'a plus d'usines en France. Mais je veux dire, quel que soit le niveau de job dans une usine, par définition, elle sort des produits. Si vous êtes dans une usine de yaourt qui va faire je ne sais pas combien de milliers de yaourts, ça vous fait à la minute une usine, mais au moins vous êtes content. Quel que soit votre niveau de responsabilité, ben vous savez que vous faites des yaourts, vous les voyez, vous pouvez même les manger.
Alors c'est vrai.
C'est très concret. Alors que c'est vrai que dans certains jobs de tertiaire, les jobs de service, parfois, la personne, l'emploi, il est loin du résultat. Mmh. Et du coup, ça peut créer le sentiment chez certaines personnes eh bien, que finalement, ça n'a pas de sens, tout ça.
D'accord. Donc effectivement, ça peut toucher certaines personnes, pas d'autres, et effectivement, qui arrivent, eux, quand même, malgré tout, à trouver du sens. Hein. C'est pas parce qu'on travaille en ligne et qu'on voilà, on travaille... sur Internet, ça n'a pas de sens.
Non, c'est vraiment le sentiment de la personne. Donc évidemment, ça aussi, c'est polyfactoriel. Il y a le type de personnalité, le caractère, pour parler avec des mots simples. Et on sait qu'il y a des personnes qui vont être heureuses dans une bibliothèque universitaire toute la journée, lire des livres documentés. C'est les chercheurs, ils sont bien, ils sont épanouis comme ça. Et puis, vous en avez d'autres qui n'ont pas le même caractère. Des personnes qui ont besoin de voir du concret, d'être vraiment, comme on le disait tout à l'heure, connectées, mettre les mains dans la pâte, dans le cambouis. Et c'est vrai que ces personnes-là peuvent souffrir d'être dans un emploi trop loin du résultat concret en réalité.
Okay. Alors tout le monde ne va pas tout plaquer et partir fabriquer du fromage dans le Cantal. Ouais. Du coup, si on est en perte de sens, enfin, si on, justement on ne sait plus trouver du sens dans son travail, quelle bonne question se poser ? Est-ce qu'il y a une to-do, une checklist ?
Ben oui, typiquement, c'est déjà, effectivement, vous avez raison, Émilie, c'est de resituer finalement le contexte, c'est de faire le chemin inverse, c'est de revenir justement, de dire, mais finalement, ce que je fais, à quoi ça sert au final ? Et parce que toutes les entreprises, elles ont une finalité qui est utile. Et ça peut être intéressant, même quelqu'un qui est dans un bureau toute la journée derrière un ordinateur, si la personne travaille, j'en sais rien, moi, dans un laboratoire pharmaceutique, c'est-à-dire quand même, grâce à mon travail, il y a des médicaments qui permettent à des personnes de guérir. La personne travaille dans un bureau d'études, typiquement, travaille dans un bureau d'études sur des pièces d'avion, la personne elle se dit grâce à mon travail, il y a des avions qui volent dans le ciel. Donc ça peut être une première étape. Une autre étape aussi, revenir encore une fois, faire le chemin inverse jusqu'au sens, de se dire mais ce que je fais, ça me permet d'avoir un salaire. Et ce salaire me permet de vivre dignement, de me payer à manger, de me payer un toit pour être à l'abri sur lequel vivre. Ça aussi, c'est la pyramide de Maslow qui l'apprend bien. On a ces besoins fondamentaux et c'est un fait que le travail, c'est quand même le meilleur moyen que l'on a trouvé pour le moment de subvenir à ces besoins. C'est vrai qu'il peut être facile parfois de l'oublier parce que bien sûr, chacun est pris dans le rythme de la vie, donc dans une espèce de course comme ça, effrénée. Et ça peut être, dans les conseils que vous demandez, ça peut être utile de faire une pause et de justement prendre le temps de décrire à quoi ça sert tout ça. C'est vrai que ça peut aider à redonner du sens.
Et de quoi j'ai vraiment besoin ? Voilà, si ça reste des besoins élémentaires, se nourrir, se loger.
Oui, ça, alors là, vous avez raison de le rappeler. C'est important de vérifier que, justement, en termes de caractère, de personnalité, c'est important de vérifier que mes besoins fondamentaux, en tant que personne avec un caractère particulier, ils sont nourris, satisfaits par mon travail. Si vous avez quelqu'un qui est très extraverti, qui adore voir du monde, qui se retrouve tout seul toute la journée à trier des archives, elle va dépérir cette personne. Et à l'inverse, si vous avez une personne un peu introvertie, qui a besoin de solitude pour se ressourcer, ça existe. Si vous la mettez dans une boutique, à être en permanence au contact de la clientèle, ou sur une plateforme téléphonique, à répondre toute la journée à des personnes, parfois énervées, là aussi, elle va dépérir. Donc, c'est vrai que c'est important. Normalement, dans un monde idéal, c'est le travail du recrutement, du manager, du recruteur, de bien valider qu'il y a une bonne adéquation. Pour autant, c'est vrai, puis C'est un fait. Alors maintenant, c'est en train de changer, vous l'avez dit, parce que les entreprises, elles peinent à trouver des collaborateurs. Maintenant, c'est un fait que les moins jeunes d'entre nous, ils ont connu une époque où il n'y avait pas beaucoup de travail. Et donc, chacun prenait un peu ce qu'il trouvait, justement pour vivre avec parfois une vraie souffrance.
Des conditions assez mauvaises aussi. Ah, oui, bien sûr. Ça a permis au moins de rebattre un petit peu les cartes.
Ben écoutez, oui, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Non pas la grande démission, maintenant le fait qu'il y ait a priori quand même maintenant du job et que finalement chacun peut, comme vous l'avez dit, trouver vraiment quelque chose qui lui convient et s'épanouir, c'est quand même c'est assez enthousiasmant, oui.
D'accord. Alors bien sûr, si on constate une perte de sens ou un mal-être qui s'est installé, il ne faut pas hésiter à consulter un psychologue. Vous avez vous-même des outils à peut-être à mettre à disposition justement des personnes alors, qui ressentent ce mal-être.
Sans prescrire des séances de psy à outrance, c'est un fait, Émilie, vous avez raison, que justement, il ne faudrait pas que ce soit le début d'un épuisement professionnel. Justement, parce que ça aussi, ça peut être un symptôme. Ouais. Une personne qui commence à être étonnamment fatiguée par ses journées de travail, une personne qui commence à dire à quoi bon, je me demande un peu à quoi ça sert tout ça, ça peut être finalement des signaux effectivement d'alerte sur un possible épuisement professionnel, sur aussi une possible dépression. Vous savez qu'il y a un Français sur cinq qui a traversé ou qui va traverser un épisode dépressif, et ça, c'est important que ça ne s'installe pas. Donc effectivement, il faut le prendre en charge tout de suite, il faut le traiter. Et oui, c'est important dans ces cas-là d'en parler à votre médecin traitant, à votre psychologue si vous en avez un, ou alors effectivement de faire cette démarche d'aller pousser la porte d'un psy, oui, ça peut faire du bien. Et c'est l'occasion de rappeler que c'est important d'aller voir des professionnels de santé, médecins ou psychologues, qui sont inscrits à l'Agence régionale de santé. Là, vous aurez des vrais professionnels qui feront un travail de qualité avec vous.
Merci Jean.
Merci Émilie.
Merci à tous et à tous. À très bientôt.